Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47 et bienvenue dans cet épisode d'Univox spécial entrepreneuriat étudiant dans le cadre de la semaine créative ainsi que notre partenariat avec Pépite France. Nous vous proposons un programme dédié au statut national d'étudiant entrepreneur et donc nous allons vous présenter trois portraits d'étudiants entrepreneurs du Lot-et-Garonne et des alentours avec tout d'abord Leïla Devin qui est créatrice de Wally, un média mode de seconde main, William Comte, créateur de Peerless, une marque de vêtements à pièces uniques, ainsi que Thibaut Delatte, co-créateur de Zencoy, une plateforme de mise en avant de projets innovants. Mais pour commencer, nous allons tout d'abord écouter Annabelle Jouison, chargée d'animation et d'accompagnement à Lubilab et Pépiteka.
Univox.
Pour introduire cette émission spéciale sur le statut d'étudiant entrepreneur, j'accueille Annabelle Jouison, qui est chargée d'accompagnement et d'animation à Ubilab et Pépite ECA. Donc vous êtes ici pour présenter un petit peu déjà ce que c'est Pépite, ce dispositif, ce réseau, et aussi parler un peu concrètement, poser les bases du statut national d'étudiant entrepreneur. Déjà, est-ce que vous pouvez commencer peut-être par présenter un peu votre rôle au sein d'Ubilab et Pépite?
Moi, effectivement, je suis chargée d'accompagnement et d'animation pour Ubilab, qui est l'incubateur de l'Université de Bordeaux, et le Pépiteka. Donc, le Pépiteka, c'est un dispositif qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, Pépite, ça veut dire pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et ECA, c'est Entrepreneuriat Campus Aquitaine, parce qu'effectivement, le Pépite, il est présent au niveau sud-Nouvelle-Aquitaine. On a une grande région, donc on a deux Pépites sur notre région, et le Pépiteka couvre le territoire de Bordeaux, La Rochelle et Pau-Côte-Basque. Donc, ce label, il est porté par les trois universités de ces territoires. Donc, sur Bordeaux, c'est l'Université de Bordeaux, via l'incubateur Ubilab, qui opérationnalise le Pépite. Globalement.
Concrètement, est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre rôle au sein de tout ça?
Oui, bien sûr. Alors moi, mon rôle, j'en ai plusieurs. Ça va être dans un premier lieu d'accompagner les étudiants entrepreneurs, donc les étudiants qui ont ce qu'on appelle le statut national étudiant entrepreneur, donc qui viennent nous voir avec un projet. Eh ben, je vais les accompagner de façon individuelle. J'accompagne une trentaine de projets. On est évidemment plusieurs collègues à le faire. On va essayer de les aider à structurer leurs projets, travailler leur business model, les mettre en réseau avec pas mal de parties prenantes. À côté de ça, on va avoir toute une partie accompagnement collectif, c'est-à-dire que on va mettre en place plein d'ateliers, plein d'événements qui seront à disposition de tous ces étudiants entrepreneurs. Donc, avec mes collègues, on est là pour mettre en place tout ça. On va avoir aussi une partie d'information pour aller faire connaître le statut dans les universités, mais aussi dans les établissements externes, et une partie de sensibilisation où, sans forcément aller jusqu'à monter un projet, on va déjà essayer de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat avec des séminaires où on essaie de leur faire monter des projets fictifs, par exemple.
C'est déjà beaucoup de casquettes différentes.
Tout à fait.
Pour présenter un peu du coup ce statut national d'étudiant entrepreneur, déjà à qui ça s'adresse?
Alors, donc, pour demander le statut national étudiant entrepreneur, qui, je le précise, n'est pas un statut juridique, mais bien plutôt un titre en fait, l'État reconnaît que vous êtes étudiant et entrepreneur en même temps et met à disposition un programme d'accompagnement pour vous aider de façon gratuite dans le montage du projet. Donc ça, c'est important à comprendre. Ce dispositif, il a été mis en place pour dire, l'entrepreneuriat, c'est une voie possible d'insertion professionnelle pour les étudiants. Donc c'était pas forcément un discours entendable avant et aujourd'hui, ça se diffuse de plus en plus. Donc, avec ce statut, les étudiants vont candidater pour obtenir ce statut. Ils vont venir faire une sorte de petit pitch devant un petit jury. Et on va surtout juger, la posture et l'envie de se faire accompagner. Et ensuite, une fois qu'ils entrent dans le parcours, ils ont droit à un accompagnement individuel avec un chargé d'accompagnement qui sera dédié. Ils ont droit à un accompagnement collectif avec plein d'ateliers, de permanences, de la mise en réseau, des déjeuners avec des alumni. Il se passe plein de choses. Ils ont en général des espaces de coworking qui sont mis à disposition. Voilà, c'est assez complet. Et il y a aussi évidemment tout cet aspect réseau et communauté. Tout simplement pouvoir rencontrer d'autres étudiants qui entreprennent aussi, pas forcément sur les mêmes secteurs d'activité, pas forcément sur les mêmes études aussi. Ça fait un peu sortir de sa classe ou de sa formation. Et ça permet de croiser un petit peu les synergies, les compétences et de se motiver ensemble pour travailler sur son projet.
Et d'après ce que j'ai compris, donc ce statut, il a une durée spécifique d'une année universitaire, c'est ça? Donc comment ça se passe déjà pour l'obtenir? Et ensuite, est-ce que c'est renouvelable?
Alors, en fait, effectivement, le statut il est valable sur une année universitaire. Au niveau du PPITK, donc il y a des pépites un petit peu dans toutes les régions, donc chacun a son fonctionnement. En tout cas, sur le nôtre, on organise 3 comités d'engagement par an. Donc, il faut tout simplement déposer un dossier de candidature sur la plateforme du ministère. Ça, on peut le faire tout au long de l'année. C'est tout le temps ouvert. Mais par contre, 3 fois dans l'année, on va venir vous répondre et vous solliciter pour venir passer un comité d'engagement. Le premier, il est donc effectivement, on résonne en année scolaire. Donc le premier pour nous, il est au mois de juin, c'est-à-dire en fin d'année scolaire, quand on prépare son année, sa rentrée d'après. Le second, il va être au mois d'octobre, une fois justement qu'on a fait toutes les informations de rentrée, etc. Et le troisième, il va être au mois de janvier pour les retardataires, on va dire. Et à chaque fois, on obtient le statut, donc soit en juin, soit en octobre, soit en janvier, et on l'a jusqu'à fin août de l'année suivante, fin de l'année. Évidemment, il est possible de renouveler ce statut si il y a forcément certains projets qui mettent plus de temps à se monter. Donc, s'il y a encore besoin, on peut renouveler le statut. On essaie de le faire qu'une fois, enfin voilà, de faire 2 années maximum. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on puisse soit que les personnes puissent créer leur activité, soit qu'ils ne créent pas leur activité, parce qu'il y en a aussi beaucoup à la fin qui ne transforment pas, mais ce n'est pas grave du tout. Soit qu'ils puissent effectivement peut-être intégrer après des incubateurs plus spécialisés, si c'est des projets plus innovants, pour continuer des accompagnements de façon un peu plus complète.
Et dans la manière d'accompagner plus spécifiquement, est-ce que vous avez une méthode précise, comment vous procédez un peu pour mettre les meilleures conditions à vos étudiants?
On va dire que chaque établissement ou chaque pépite aura ses méthodes. Ça, c'est, il n'y a pas forcément de choses précises. Surtout le pépite, que ce soit à La Rochelle, à Pau ou à Bordeaux, on accompagne de façon différente. À Bordeaux, du coup, j'en parle plus spécifiquement vu que c'est ce que je connais le mieux. Puis c'est là aussi sur les territoires, que ce soit annexes, on va dire, en Dordogne, en Lot-et-Garonne, etc. On utilise une méthode tout simplement qui est un séquençage de l'accompagnement. Parce qu'en fait, évidemment, ça peut prendre plein de formes différentes. Le projet peut aller dans tous les sens. Donc nous, l'idée, c'est surtout qu'on puisse cadrer l'étudiant, lui faire passer certaines étapes qu'on sait un peu indispensable pour qu'à la fin de l'année, il puisse avoir vraiment un dossier complet rédigé si jamais il a besoin d'aller chercher des partenaires, des financeurs, et qu'il puisse aussi savoir pitcher son projet, pareil, dans le but d'aller chercher des parties prenantes. C'est intéressant qu'il soit prêt en fait à ça.
Dans les profils d'étudiants qui s'orientent vers ce statut, est-ce que des étudiants qui sont dans des études déjà justement en lien avec l'entrepreneuriat, peut-être aussi avec la communication, est-ce qu'il y a une majorité de ces étudiants-là ou ils peuvent venir de tout type de formations différentes?
On a des étudiants vraiment de tout type de formation. Après, c'est sûr que y a certains profils ou formations, oui, des masters entrepreneuriat, ce genre de choses, où on va avoir un vivier qui est un peu conséquent, c'est évident. Mais on peut très bien avoir des étudiants qui soient ingénieurs ou qui soient en sciences politiques, des carrières plus artistiques. Il y a vraiment, c'est assez varié, de la médecine, enfin de la médecine, en tout cas des cursus de santé, il y en a aussi, de la psycho. Enfin, on a vraiment des choses très larges au niveau d'où viennent les étudiants. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on accompagne tout type de projet. Donc on ne se concentre pas du tout sur que des projets innovants, start-up, absolument pas. Nous, notre but, c'est vraiment de développer l'esprit d'entreprendre. Donc, c'est tout simplement se mettre en action et porter des projets. Donc, ça peut aussi être des projets associatifs, ça peut être des projets de structure de SS, ça peut être des projets de commerce classique, ça peut être des activités en freelance. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très varié, hein.
Pour finir, est-ce que vous auriez un message en particulier à faire passer à des jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui du coup pourraient être intéressés par l'obtention de ce statut? Quel mot vous leur diriez?
Bah, je leur dirais d'oser. En fait, il y a des moyens, il y a des dispositifs qui sont gratuits, qui sont mis à disposition. C'est une vraie chance. Donc, il faut oser aller demander de l'aide. On est là pour ça. Et surtout, voilà, on travaille aussi beaucoup sur la question de la légitimité, etc., quand on est jeune. Et en fait, c'est un moment qui est plutôt stratégique et intéressant pour lancer une activité. Faut pas hésiter et surtout faut pas se dire qu'on va voilà qu'on va pas réussir etc. En fait c'est pas grave. Nous ce qu'on prône vraiment c'est le fait que monter un projet sur une année, même si on va pas au bout, on va vraiment venir développer des compétences entrepreneuriales et ces compétences elles vont être un plus en fait pour aller chercher un emploi derrière, pour aller parler avec voilà des recruteurs. Donc il faut pas hésiter à y aller, ça sera positif dans tous les cas.
C'est ça peut apporter aussi dans d'autres domaines de la vie en général, quoi.
Exactement. Et puis ça peut apporter aussi bah, des rencontres, du réseau, enfin plein d'autres choses qui sont plutôt positives. Ouais.
Bien sûr, oui. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter, une précision, qu'on n'a pas abordée?
Bah non, allez-y, quand vous êtes jeune, c'est un super moment pour monter des projets, de monter des projets qui ont du sens pour vous. C'est clairement un moment qui peut être plutôt chouette. Il faut sortir de tous les modèles. Classique aussi, dont on a beaucoup parlé, tous les entrepreneurs de start-up américaines dans le numérique, il n'y a pas que ça comme modèle inspirant. Il faut trouver aussi ses modèles à soi, essayer de monter des projets qui ont du sens, et voilà, ça peut être une expérience très enrichissante.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 47 et on se retrouve à présent avec une première étudiante entrepreneur. Voilà, premier profil de cette émission, c'est Leïla. Bonjour Leïla.
Bonjour Maxence. En tout cas, je suis très contente d'être ici pour parler de mon projet. Mon projet qui a été accompagné par Pépite à l'université de Bordeaux, donc dans l'incubateur de l'université de Bordeaux à l'IAE. Donc voilà.
Bienvenue à toi. Donc toi, tu as monté une entreprise qui s'appelle Wally.
Oui, c'est un média donc actuellement sur Instagram et TikTok qui met en avant la mode de seconde main et qui sert à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur le fait qu'on peut consommer de manière plus durable, autrement, et qu'il existe des alternatives à la fast fashion et encore plus aujourd'hui.
Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer là-dedans pendant tes études, du coup?
Alors, j'ai fait, en fait, avant de faire mon master en entrepreneuriat, j'ai fait une licence de droit et j'ai décidé, en fait, d'essayer de trouver quelque chose qui avait un sens pour moi. Et je me suis orientée vers l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises à Bordeaux. Et donc, au sein de l'IAE, ils proposent un master entrepreneuriat et management de projet qui nous permet d'avoir les clés pour pouvoir entreprendre le mieux possible. Que ça soit sur des questions de finance, de marketing, de ressources humaines. Et c'est vrai que en ayant les cours que j'ai eus, je me suis dit bah j'ai envie d'entreprendre maintenant. Et je me dis bah ça sert. Enfin, j'avais besoin d'entreprendre maintenant et c'était pas forcément obligatoire pour moi d'entreprendre après mes études. Et surtout, j'avais la possibilité d'être accompagnée pendant mes études. Et je me suis dit, bon, bah, let's go, ce projet, j'ai envie de le faire maintenant, ça me tient à cœur maintenant. Et je me dis, bah, pour moi, ça servait à rien d'attendre. Donc, j'ai été vraiment super bien accompagnée à l'incubateur Ubilab de l'Université de Bordeaux. Et j'ai pu lancer le projet grâce à eux, grâce à mes enseignants. Et voilà, grâce aussi au sens que ce projet animait pour moi aujourd'hui et à l'époque, donc il y a 2 ans.
Ok, donc ça fait 2 ans que t'es là-dedans.
Ouais.
Et c'était quoi l'idée de base? Bon, t'as parlé un peu du coup de là où ça en est maintenant, mais pourquoi t'as choisi ce créneau en particulier?
Alors, de base, pour rentrer à l'IAE de Bordeaux, j'ai dû présenter un projet. C'est une exigence qu'ils ont pour le master entrepreneuriat. Et j'étais partie sur une friperie physique qui proposait en même temps un salon de thé. Parce que je voulais vraiment faire un mix des deux en faisant quelque chose d'assez convivial et en même temps bah, pouvoir voilà, acheter des vêtements avec tout ça, une esthétique assez particulière. Et en fait, je me suis rendu compte en étudiant, en travaillant le marché, que c'était très compliqué d'ouvrir quelque chose de physique, encore plus quelque chose en lien avec l'alimentation. Donc je me suis dit, bon, quelque chose qui frappe les esprits plus facilement, de manière plus globale. Et je me suis orientée vers un média, parce que l'avantage du média, c'est quelque chose qui demande des investissements qui sont moindres. Bon, il faut un téléphone et voilà, prendre des photos, créer un compte sur les réseaux comme Instagram, TikTok. Il faut beaucoup de temps, d'imagination et quand même un peu de matière première. Globalement, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un compte Instagram qu'un restaurant ou qu'une boutique. Donc, le projet a beaucoup évolué. Donc, ça aussi, dans le cadre de mes études, aussi avec l'accompagnement que j'ai eu, où en fait, bah, en réfléchissant, et c'est aussi à quoi sert l'accompagnement, c'est faire mûrir le projet. On est étudiant, donc on peut faire plein d'ajustements et donc pour pouvoir après trouver le mieux et le projet qui peut être le plus simple à mener. Et c'est vrai qu'actuellement, je me rends compte que la flexibilité qu'offre un média aujourd'hui, bah, c'est ce dont j'avais aussi besoin pour moi et qui est beaucoup plus compliqué dans le cadre d'une friperie physique ou d'un restaurant ou encore plus d'un mix des deux.
Tu es encore en études actuellement ?
Alors, je viens de finir mon master là. J'ai eu mon diplôme il y a 15 jours.
Ok.
Donc là, je suis vraiment en sortie d'études. Donc là, je travaille à fond sur le projet. Même si bah, je cherche à me former aussi sur tout ce qui est prospection. Donc, j'aimerais bien trouver quelque chose là-dedans. Parce que c'est vrai que quand on entreprend, je répète un peu ce que disent mes professeurs, mais c'est vrai que le métier de commercial, beaucoup d'entrepreneurs sont passés par là avant d'entreprendre parce que la prospection, parler à des clients, c'est la priorité en fait dans un projet parce qu'il faut que le projet se fasse connaître. Et voilà, donc j'aimerais bien me former là-dedans, me professionnaliser là-dedans tout en gardant le projet à côté. Donc c'est vrai que comme c'est un média, ça demande du temps sans demander un temps aussi énorme que pourrait demander une boutique physique ou quoi. Mais c'est vrai que le média, ça me permet de ne pas y travailler à plein temps. Mmh. Je peux m'y mettre à mi-temps. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont des médias et pour qui c'est des heures et des heures de travail. Enfin, mais je peux me permettre de chercher à côté et d'en plus de travailler sur le média.
Mmh. Et du coup, pendant que tu t'étudiais encore, comment t'arrivais à gérer le temps entre les études et du coup le développement de ton entreprise ?
Alors moi, comme j'étais en entrepreneuriat, c'est vrai que les cours qu'on avait, c'était des cours que je pouvais appliquer directement à mon projet. Donc c'était un peu le master qui me permettait aussi de travailler directement sur mon projet. Et c'est vrai qu'en fait, en master 2, on a un stage de 6 mois. Et j'ai pu effectuer ce stage à l'incubateur Ubilab. Donc en fait, on n'est pas vraiment en stage parce qu'on ne travaille pas vraiment pour une entreprise. Mais on est accompagné 100% du temps par un accompagnateur et on profite aussi, donc ça c'est grâce au statut national étudiant, de plein d'événements qui sont mis en place pour les entrepreneurs. Et c'est vrai que le fait d'avoir un temps plein là-dessus, ça nous permet d'aller à toutes les activités qui sont proposées par l'incubateur, ce qui n'est pas le cas quand on a des cours ou quoi. Donc j'ai pu travailler là-dessus à côté grâce à mon master et grâce à l'accompagnement que j'ai eu.
Et justement, est-ce que tu peux parler un peu plus concrètement de cet accompagnement ? Comment ça s'est passé ? Quelles sont un peu les étapes par lesquelles tu es passé ?
Alors, j'ai fait donc, l'accompagnement, j'ai passé un entretien pour le SN2E en juin 2023. Donc, je suis passée devant un comité de plusieurs personnes, j'ai parlé de mon projet, de mes motivations, de... Le projet était encore différent de celui qu'il est aujourd'hui, mais voilà, j'ai parlé... qui me motivait, pourquoi je voulais faire ce projet, comment je le voyais plus tard. Après, j'ai eu une réponse quelques mois plus tard positive en disant que je pouvais être accompagnée. Donc c'est là que j'ai été accompagnée par Annabelle, qui est une accompagnatrice d'Ubilab. À partir de ce moment-là, quand on a le statut, on a accès à tous les locaux qui sont des sortes de coworking d'Ubilab. Donc à Bordeaux, il y en avait un à La Victoire, il y en a un aussi à Pessac et il y en a un à l'Université de Bordeaux, à l'IAE de Bordeaux. Donc en fait, déjà, on a accès à du matériel, donc aux locaux, il y a des tables, vraiment, c'est des espaces très bien pour travailler. On a un accompagnement qui se fait avec l'accompagnateur, donc ça varie entre... En fait, ça dépend de nos besoins, mais ça peut être un accompagnement, un rendez-vous, par exemple, tous les mois, où on parle du projet et on montre nos avancées, par exemple, une fois par mois. Et donc, on a cet accompagnement-là. On est toujours un peu en lien avec notre accompagnateur. Sinon, on a un problème. Si on a des questions, bah, il est toujours là aussi pour nous aider sur plein de questions, que ce soit des questions juridiques, que ce soit des questions financières. Après, donc, il y a des événements qui sont organisés par les équipes, donc qui sont vraiment très précieux, où on rencontre des professionnels du secteur, comme par exemple des banquiers, des investisseurs, la BPI, donc la Banque Publique d'Investissement. Et donc voilà, on rencontre vraiment plein de personnes différentes qui peuvent nous aiguiller, nous aider pour le projet. On fait aussi des cours, par exemple, il y a des cours de marketing avec des professionnels qui viennent nous apprendre à créer un site ou à bien communiquer sur nos réseaux. Enfin voilà, donc on a accès à tout ça et donc on se sent vraiment aussi aidé avec ces ateliers-là. Puis il y a aussi des réunions où on rencontre les autres entrepreneurs. Donc ça a créé une petite bulle aussi entre entrepreneurs et c'est très très motivant et chacun parle de son projet librement parce que c'est vrai que c'est une mentalité où les gens ne vont pas avoir le réflexe de garder leur projet pour eux, mais justement c'est un lieu où on peut en parler. Et donc les gens ils donnent des conseils, ils disent mais moi j'aurais fait ça, tout ça. Et c'est vraiment sain comme ambiance de travail car tout le monde est dans l'entraide et chacun a des super choses à proposer. Donc il y a vraiment un esprit d'équipe qui se crée et c'est vraiment chouette. Et on le sent grâce à ce statut qui fait qu'on a tous un lien aussi, le fait d'entreprendre.
C'est quoi pour toi un peu l'esprit d'entreprendre en tant que jeune, en tant qu'étudiante? Est-ce qu'il y a un état d'esprit? Tu parlais de mentalité particulier?
Bah, en fait, quand on entreprend, on se lance un peu dans quelque chose, on sait pas trop où on va. Surtout quand on est étudiant et on n'a pas vraiment de formation professionnelle, on va dire, on est encore jeune, on connaît le monde du travail via des stages, mais on ne sait pas trop où on va. Et donc, en fait, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est vraiment très excitant. Donc, moi, je dirais, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui n'ont pas vraiment peur et qui ont envie de réussir. Et on va dire qu'ils savent que c'est compliqué et que peut-être ça ne fonctionnera pas, mais dans tous les cas, tu l'as fait parce que ça compte pour toi et surtout, ça a du sens pour toi. Donc c'est vraiment, les gens que je vois, c'est des gens vraiment très motivés et les projets, ça leur tient vraiment à cœur. Enfin, c'est vraiment c'est pas je fais un projet comme ça, c'est vraiment la chose qui fait que je fais ces études-là, c'est cette chose qui fait que après mes études, j'aimerais me lancer dedans. C'est vrai que la plupart des gens voudraient, l'objectif c'est de vivre de son projet. Alors c'est plus ou moins possible, si on le commence par exemple en master 1, 2 ans pour monter un projet viable. Il y en a qui arrivent. Moi, j'ai des gens dans ma promo qui ont réussi. Mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Mais c'est là, une des motivations, c'est de vivre de ça et en tout cas, le mener au bout. Quoi.
Et du coup, avec le peu de recul, les 2 ans de recul que tu as, est-ce que c'était une bonne idée d'entreprendre aussi jeune, finalement?
Oui, vraiment. Même si, admettons, mon projet, je décide de le changer ou si je décide de faire un autre projet, j'aurais beaucoup appris sur aussi la difficulté que c'est d'entreprendre, sur le fait de tout ce que ça implique, en fait, d'entreprendre. Et qu'en fait, entreprendre, avoir son entreprise, y a plein de questions. On ne s'imaginait même pas les avoir, que ça soit au terme de RH, communication, finance, tout ça. On se dit, mais c'est tellement énorme. Et c'est vrai que ça nous... en tout cas, on se dit, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que non, je ne regrette absolument pas. Parce que ça m'a aussi permis de rencontrer des gens qui m'ont appris beaucoup. J'ai eu une énorme prise de conscience sur à quel point ça pouvait être compliqué d'entreprendre et qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir faire. On ne peut pas faire du développement et en même temps de la communication et en même temps de la RH et de la finance. Qu'il y a un moment, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est compliqué de se le dire parce qu'on a souvent tendance à dire c'est mon projet, je veux que ça soit moi qui gère tout. Mais non, c'est pas possible. Et il faut vraiment apprendre à déléguer. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes choses que j'ai appris pendant mes années de master. Je me disais, waouh, là, il faut que. On peut pas tout faire, quoi.
Et est-ce qu'au début, tu as eu un petit sentiment d'illégitimité, justement, en tant qu'étudiante, en tant que jeune? Est-ce que tu as pu passer par là?
Alors oui, complètement. C'est parce qu'aussi, il y a des gens qui ont des projets qui sont vraiment... qui sont vraiment fous. Enfin, ils sont dans la santé, dans des domaines, vraiment des projets poussés avec des ingénieurs. Et même quand on voit des startups, il y a énormément de startups, même sur Bordeaux, qui sont incroyables. Et c'est vrai qu'on se dit, alors moi, j'ai 21 ans, 22 ans, j'ai mon petit projet de friperie, de médias. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Vraiment, ça a l'air complètement bête. Et oui, complètement. C'est vrai qu'on se sent complètement illégitime, même de faire ce genre d'études. Tout ça, enfin, j'ai pas l'impression. Enfin, je me dis, alors le syndrome de l'imposteur est assez fort dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'avais justement eu une formation là-dessus sur le syndrome de l'imposteur chez les jeunes entrepreneurs. Et ouais, c'est vrai que c'est assez réel et frappant, surtout quand il y a certains projets, on peut avoir l'impression qu'ils valent moins bien que d'autres. Mais c'est pas le cas. C'est super chouette d'entreprendre à nos âges. C'est une fierté. Et il faut pas. Si on est là, c'est qu'on a eu notre place. Et voilà. Ce qu'on fait, ça a du sens pour nous. Il faut le défendre. Et voilà.
Pour le futur, est-ce que tu as des objectifs précis, des aspirations en particulier
Alors l'objectif, ça j'aimerais bien donc continuer à développer ces médias. C'est vrai qu'il marche surtout sur la commune, sur une communauté, parce que comme c'est wally.fr sur Instagram et sur TikTok, c'est quelque chose qui est un peu nourri aussi par ses utilisateurs, car je propose pas vraiment un produit physique ou voilà. Donc j'aimerais développer une vraie communauté là-dessus, et c'est vrai que mon but, c'est vraiment de montrer que la friperie ou la seconde main, ça pue pas, c'est pas moche. essayer d'enlever tous ces clichés-là qu'on peut avoir, qui sont présents, après avoir fait ma petite étude de marché. Et montrer qu'on peut être très bien habillé et cool et tout ça en utilisant de la seconde main. Je fais aussi de l'upcycling, donc j'aimerais bien développer cette partie-là. Donc, l'upcycling, c'est la réutilisation de tissus déjà existants pour faire des nouvelles pièces de mode. Sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas forcément qu'ils jettent leurs vêtements, mais ils peuvent les réparer eux-mêmes ou les transformer, et ce n'est pas forcément très compliqué. Donc j'aimerais bien vraiment développer le média et voir jusqu'où ça peut aller.
Est-ce que tu aurais, pour finir, un conseil, un message à faire passer à un jeune ou à un étudiant qui aimerait se lancer, qui a une idée ?
Ouais, alors... La clé, je trouve, pour un projet, pareil, c'est ce que aussi j'ai entendu de mes enseignants et de mon accompagnement, il ne faut pas avoir peur, en fait, de modifier le projet. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, il ne faut pas forcément... Si on voit que c'est compliqué, si on voit que l'étude de marché n'est pas bonne, si on voit que... Bon, on sait que la réception du projet ne va pas être bonne, que ça coûte trop cher, que c'est trop de financement, que c'est trop compliqué, il ne faut pas avoir peur de faire une mise au point. On appelle ça un peu comme ça, la mise au point du projet, et le changer s'il faut, le modifier. Et pour autant, l'âme initiale du projet restera, parce que c'est vous qui l'apportez. Vraiment, ne pas avoir peur de modifier l'idée qu'on a de base, si c'est trop compliqué, et pas rester dans un gouffre qui nous bloque, qui nous frustre, et qui fait qu'on a envie de tout arrêter. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à donner, parce que pour le coup, mon projet... Il évolue tout le temps, et il évolue encore, et il va encore évoluer, je pense, pour s'adapter au mieux au marché, pour s'adapter au mieux aux demandes. Et la clé, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un projet qui s'adapte à son environnement, et ne pas avoir peur, surtout, de le faire évoluer, parce que voilà, c'est la clé pour moi, et pour aussi ce qu'on m'a appris aussi en entrepreneuriat.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, dont tu voulais parler ?
Alors, il y a une association solidaire à la Vardac qui récupère des dons et qui les remet en valeur. Donc, ça s'appelle le Bric-à-Brac Solidaire. Voilà, big up. Ils ont deux boutiques à la Vardac, et le mercredi, donc matin, ils vendent des vêtements de seconde main. Et c'est très chouette, et l'équipe est vraiment très chouette. Et si vous êtes du coin, en tout cas, n'hésitez pas à y passer. C'est très, très cool. Et le samedi matin, ils vendent des meubles aussi de seconde main. Et c'est dans la vibe de mon projet, donc c'est pour ça que j'en parle.
Bah, tu fais bien. Tu peux rappeler un peu le Insta, comment on peut te suivre, du coup ?
Alors, du coup, c'est Wally, W-O-L-Y, .fr, donc sur Instagram et sur TikTok. Donc, je suis sur ces deux réseaux. Donc voilà.
Super. Merci beaucoup à toi, Leïla, d'être passée.
Eh bien, merci à toi, et merci pour l'accueil. Et merci.
Univox. Merci pour les fraises, celles qui rougissent mes lèvres. Je suis taise aussi amère, j'en ai le cœur chaud. Merci pour les fraises, cueillies avec tendresse. Demain et de vieillesse.
Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
De retour sur Radio Campus 47, on se retrouve maintenant avec un nouvel étudiant, c'est William. Bienvenue William.
Bienvenue, merci.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Super. Alors William, t'es en Master 1 en entrepreneuriat à l'Université de Bordeaux, à l'IAE Bordeaux.
Ouais, c'est important, ils font la distinction tout le temps.
Yes, et du coup t'as le statut national d'étudiant entrepreneur et t'es suivi par l'UbiLab.
C'est ça, prochainement vers Cage Incubateur, mais ouais, pendant un petit bout de temps à l'UbiLab depuis janvier dernier, donc janvier 2024.
C'est ça, donc comment t'as été amené pendant tes études, te dire je vais lancer un projet d'entrepreneuriat? Bon, toi t'es déjà dans des études justement d'entrepreneuriat, donc j'imagine que c'était un peu plus logique, mais comment t'en es venu à ça?
En gros, déjà, je suis à la faculté d'économie et gestion, donc déjà, c'est là où il y a l'un des bureaux de l'UbiLab, donc ils sont assez présents sur cette partie du campus de l'université. Et déjà, donc là, c'est mon master 1, mais en licence, ou en tout cas en BUT, j'étais déjà en spécialité entrepreneuriat, donc on nous en a parlé. Et pourquoi je me suis penché vers l'UbiLab? Parce que dans le projet, en gros, le projet de l'année, qui validait en fait nos deux semestres, et qui comptait pas mal, on devait faire une entreprise fictive. Et donc on a regardé, on s'est dit ouais, quelle idée pourrait nous plaire et tout ça, et donc on a fait tout ce qui est fictif, et ensuite on s'est rendu compte que ça pouvait être possible, et donc on s'est enseigné auprès de l'UbiLab pour l'avoir, et on a compris que c'était une des étapes en fait qui était simple, là où on n'a pas l'habitude trop en France pour tout ce qui est financement, création d'entreprise. Bah là c'était très simple, et c'était que du bonus. Du coup on s'est dit bon bah on le fait, let's go, et on voit ce que ça donne, et on a été accepté, voilà.
Tu dis on, du coup, vous étiez plusieurs à la base ?
C'est ça, en fait, c'était un projet de groupe, donc on devait être entre 6 et 7, ce qui paraît énorme, surtout au début d'une entreprise. Mais au début, ouais, on était 7 à obtenir le statut étudiant. Et maintenant, on est entre 3 et 4, c'est encore à définir. Donc là, on se relance dans le projet avec la rentrée et le temps qui revient un petit peu plus, parce qu'on était tous en alternance, plus les cours, le mémoire, les fins d'études. Mais ouais, là, on va être 3-4 à fond sur le projet. En tout cas, on se relance là ce mois-ci. Yes. Donc ouais, il y a que du beau à venir. Donc ouais, on est un peu moins. Il y en a qui sont partis faire des projets à côté, d'autres choses. Donc voilà.
Et tu disais du coup, vous aviez pas tous le temps. Comment tu fais du coup pour gérer à la fois les études et le développement de ton projet ?
Eh ben, c'est super dur. Franchement, ouais. En fait, ce qui nous motivait au début, bah, c'est logique. Le début, t'es très euphorique, un peu comme dans une relation. Là, non. Et t'es très euphorique, donc t'avances très vite sur plein de trucs. Et dès que t'as les premiers obstacles, t'as de plus en plus de mal. Et d'ailleurs, l'Ubilab est très utile pour ça. C'est-à-dire qu'il t'accompagne. Enfin, c'est le rôle de l'Ubilab, il t'accompagne. Donc, ils te font réfléchir, ils te donnent un autre point de vue. Ils te fixent des étapes. Et ça... Enfin, vu que là je suis plus trop avec l'Ubilab, c'est plus compliqué. Bon, ça va se reprendre avec l'incubateur de Cage. Mais en tout cas, avec l'Ubilab, ils nous fixaient bien des deadlines, donc c'était cool. Et ouais, c'était dur, mais il fallait s'organiser un petit week-end par-ci, un soir par-là. Donc on n'avance pas autant qu'on veut, parce qu'on n'est pas à 100% sur le projet. Et depuis qu'on a voulu créer ce projet, on n'a jamais été. Enfin, aucun d'entre nous a été à 100% parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, il faut se forcer. Là, moi, j'ai plus de temps. Et deux autres du projet ont aussi plus de temps. Donc là, on va pousser. On a un beau projet, en tout cas, d'ici fin d'année. En tout cas, deux beaux projets.
Ok, on va en parler un peu juste après. Mais du coup, tu parlais de l'accompagnement de l'Ubilab. En quoi ça consiste, justement, concrètement ?
En gros, il se fait par plusieurs manières. Dans un premier temps, tu as des rendez-vous, que ce soit mensuel, hebdomadaire, c'est à toi de le définir avec. Et en fait, ils vont tout simplement te donner des objectifs comme dans toute entreprise, en fait, tout simplement. Ils vont te dire, bon, bah, pour cette fois, tu vas me faire la recherche de concurrents, tu vas produire ce que tu m'as dit, tu vas essayer de trouver tel partenaire, tel lieu si jamais c'est de l'événementiel. Et mine de rien, quand tu te les fixes, au lieu de te les fixer toi-même et peut-être de dire, oh, je le fais la semaine prochaine, bah, c'est plutôt cool. Donc, tu as tout cet aspect-là. T'as l'aspect réseau, vu que bah, t'es pas tout seul. Moi, j'ai rencontré une fille qui a créé Jeanne Ray. Donc, c'est des chaussures fait main, made in France, et de qualité. Et en fait, moi, ça rentrait totalement dans mon écosystème de mode, parce que j'expliquerai après aussi, mon projet en aura le temps. Mais donc, ça rentrait totalement dans mon écosystème. Et donc, de là, on a échangé les contacts, et potentiellement, on va évoluer ensemble. En tout cas, on sera amené à échanger. Donc, c'est cool. Enfin, le dernier aspect, c'est vraiment les ateliers. Alors moi, vu que j'ai pas beaucoup de temps et que c'est à des horaires bien, mais c'était très compliqué pour moi l'année prochaine. Là, cette année, j'en profite un peu plus. Mais il y a des ateliers, normalement, par exemple, pour choisir son statut juridique avec un juriste, en fait, qui vient. Donc, on choisit sa place et les plus motivés ont une place, logiquement. On a aussi, par exemple, tout ce qui est comptabilité. Même si c'est parce qu'on a des mecs qui viennent d'Angers. T'as des mecs qui sont, comme moi, de commerce plutôt, mais ceux qui viennent d'Angers, ils n'ont pas la comptabilité dans la tête. Donc ils viennent, il y a un comptable qui est là, donc c'est cool. Il y a des échanges de débats, donc ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'interactivité, il y a de l'apprentissage, du partage, donc ouais, il y a tout ça un peu.
Bah, c'est très complet, quoi. Ouais. Yes. Et du coup, pour parler plus concrètement de toi, ton projet, c'est quoi un petit peu l'idée de base de laquelle t'es parti ? Enfin, ben, vous êtes parti même.
Ouais, c'est ça. Et alors, je suis content et fier parce que ça vient un peu d'une idée à moi, mais ça a été développé par tout le monde, je tiens quand même à le dire. C'était ma meilleure pote qui est en études de mode, elle, et elle me parlait de sa vie classique, et elle me racontait qu'en fait elle avait beaucoup de vêtements, ou en tout cas de ce qu'elle doit faire pour ses études, et qui traînent au placard, et elle me disait en plus je dois acheter les matières, ça coûte super cher, et j'étais allé chez elle, et genre il y a combien de vêtements qui genre, sont magnifiques, uniques, mais qui traînent quoi. Et à côté de ça, moi j'aime bien m'habiller avec des vêtements qui ont une histoire. Et tout le monde est habillé pareil ou voilà. Et là on s'est dit putain, si on fait genre une plateforme où il y a vraiment des vêtements uniques, durables parce que c'est fait avec de la qualité. Et du coup on a créé ce qui s'appelle Peerless. Donc pour l'instant on est à l'état d'un blog, mais on veut sortir une marketplace slash e-commerce d'ici fin d'année. Et ouais, en gros le but c'est de valoriser en fait la personne qui a créé derrière ce produit. On dit pas ouais c'est un t-shirt qui vient de telle marque, on dirait c'est cette personne qui l'a créé. Et en gros, dans la fiche produit, on voulait mettre vraiment une histoire. On voulait que tu sois fier, comme quand tu me racontes, par exemple, un t-shirt que tu as acheté à un moment précis, tu vois, tu y accordes de la valeur.
Ouais.
Donc le but, c'est un peu plus durable, vu que bah, techniquement, c'est de la qualité fait par des professionnels ou des gens qui font soit des études, donc c'était à destination des étudiants, mais aussi des créateurs indépendants. Donc on avait tout cet aspect-là durable. Et aussi, bon là, économique peut-être un peu moins, mais peut-être mettre un peu plus d'argent pour, encore une fois, de la qualité et surtout pour soutenir en fait tout ce milieu qui est un peu invisibilisé et bouffé par les gros. Donc on voulait vraiment soutenir toutes ces personnes.
Et du coup, en termes de financement, par exemple, comment ça s'est passé, quels moyens vous avez utilisés et jusqu'à maintenant pour développer le truc?
Alors pour l'instant, ce qui était très cool, c'est qu'avec notre formation et du coup dans le cadre du projet, on avait un peu d'argent, un petit budget qui nous était donné. Donc ça nous a permis de lancer, d'acheter un nom de domaine, d'utiliser WordPress avec quelques plugins payants. Mais pour l'instant, on a fait en sorte de faire un peu du système D, quoi, le moins payant possible parce qu'on n'avait pas le plus gros des budgets. Et justement, là, ça va être cette année de produire un beau dossier pour un financement peut-être et de produire quelque chose qui quand même marche. Donc voilà, et après, sinon, par exemple, Ubilab crée aussi le concours Pépite. Donc si on s'investit assez, et en général, les investis touchent vraiment un prix, ou en tout cas, on les trouve souvent récompensés quand on s'investit au sein de l'Ubilab, parce qu'on est dans l'écosystème, on est dans tout. Et donc voilà, il y a différentes sources de financement, il y a la BPI qui peut le faire, il y a d'autres banques privées, publiques. Il y a plein de moyens pour se financer, mais pour l'instant, on est en train d'y réfléchir déjà sur le budget, sur plein d'aspects, et j'avoue que c'est un peu le challenge parce que le marketplace, c'est pas ce qui rémunère le plus.
C'est quoi les compétences un peu qu'il faut avoir pour entreprendre, surtout quand on est jeune?
Pour entreprendre, je dirais que faut t'adapter parce que faut être un peu le couteau suisse, faut que tu maîtrises un peu de compta, que tu sois un peu un commercial. Si t'as un produit qui est innovant, faut que tu maîtrises l'outil neuf, donc un peu ingénieur aussi sur les bords. Manager, si vous êtes plusieurs ou avec une petite équipe, au début on va dire que t'es tout seul, mais après si tu te développes un peu plus. Et quand t'es jeune, peut-être être courageux dans le sens où le regard des autres peut rapidement tourner en dérision. Alors toujours faut faire attention, faut pas dire j'ai l'application du siècle tant que tu l'as pas lancée. Bon, encore une fois, c'est un projet, c'est pas encore totalement établi, j'espère, hein, mais ça se trouve il y a des obstacles que je pourrais pas faire face et voilà. Par exemple, à l'Ubilab, ils aiment bien dire, c'est horrible, hein, mais il n'y a que 10% des projets qui verront le jour. Donc,
c'est le jeu aussi de...
C'est le jeu, il y a des idées qui sont super bonnes, mais après il y a tout ce qui est l'argent derrière ou certains facteurs qui rentrent en compte. Donc ouais, courageux pour le regard des autres et courageux face aux obstacles que tu as. Mais dès que ça réussit et quand ça réussit, c'est génial.
C'est quoi justement les obstacles que tu as pu rencontrer, les principaux défis?
Les principaux défis, par exemple, c'est malgré que je sois hyper intéressé par la mode, c'est mon manque de connaissances, en tout cas techniques, et peut-être qui peut me porter à défaut. Donc là, moi, je prends des petits cours à droite, à gauche, je récupère des anciens cours de potes et tout ça. Et aussi, quand tu commences à faire ton budget, justement, à réfléchir un peu plus moins dans le rêve, un peu plus dans le réel, tout ce qui est financement, en fait, tout simplement, c'est notre monde, c'est vraiment l'argent. Donc. Est-ce que ça va me rapporter tant? Parce que cette idée est géniale, mais derrière, est-ce qu'il y a assez d'argent qui rentre pour que moi je continue ce projet ou je le développe ou quoi? Donc ouais, c'est un peu les gros. Et pareil aussi après, le côté humain. On était 7. Tout le monde met sa main à sa patte de différentes manières. Ça convient à tout le monde, ça convient pas. Moi, dans mon cas, ça a été. Mais je sais qu'il y en a pas mal d'autres où ça peut être assez compliqué.
Et est-ce que du coup, en tant qu'étudiant, même en tant que jeune, tout simplement, il peut y avoir un petit sentiment d'illégitimité parfois?
En vrai, ouais, des fois. Par exemple, justement, avec le manque de connaissances dans le monde de la mode, tu vas dire, est-ce que en fait, je suis la bonne personne? Est-ce que en fait, ça se trouve, ceux de la mode, ils me disent, mais t'es juste un requin venu pour faire de l'argent sur notre dos et tout ça. Alors que, c'est pas mon but premier. Mon but, ce serait d'en vivre, évidemment. Pas non plus de rouler sur l'or, mais au moins d'en vivre. Mais en fait, c'est le manque de connaissances, parce que des fois même, tu veux partager une passion commune, ou en tout cas, réunir les gens autour d'une passion. C'est un peu aussi ce qu'on veut véhiculer. Et c'est vrai que quand toi-même, t'as pas tout ce qui est le bagage technique, ça peut être compliqué, tu peux être illégitime. Et après, ouais, quand t'es jeune, t'as pas encore réalisé de grandes choses, t'es dans tes études, donc tu peux te dire, ouais, il est rêveur et tout ça, mais... Pour l'instant, c'est vraiment au niveau technique que je me sens illégitime. Après, au niveau de la personne et de créer une entreprise, je pars du principe qu'il y en a qui l'ont fait plus jeune, d'autres plus vieux, et que plus tu rencontres de gens, justement, et aussi la qualité d'être ouvert d'esprit aussi en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte qu'en fait, tu peux le faire à n'importe quel âge, peu importe ton expérience. En fait, tant que tu crois en ton projet, que tu es motivé, il n'y a pas trop de soucis.
Du coup, tu penses que c'est une bonne idée d'entreprendre jeune?
Moi, je pense... Alors, je suis sûr et certain que c'est pas fait pour tout le monde. T'en as qui vont être plus sereins à l'idée d'être manager ou d'avoir certaines responsabilités, mais pas de créer. Faire de l'intrapreneuriat, par exemple, ça peut être une bonne solution aussi quand on est jeune, qu'on n'a pas la confiance en soi. L'intrapreneuriat, c'est de créer au sein même d'une entreprise.
Ouais, okay.
Donc c'est pas toi qui crée tout, mais par exemple développer un service, lancer un produit dans un autre pays, voilà. Il y a plein de types de projets, créer un événement, par exemple, ça peut arriver beaucoup. Donc ça, pour une première expérience, ça peut être sympa. Et ouais, pour être entrepreneur, il faut juste croire en son projet, avoir l'envie, être motivé. Et juste, c'est pas un long fleuve tranquille, mais franchement, c'est une belle expérience.
Pour le futur, est-ce que ça te donne des idées un peu, enfin, est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça t'apporte pour ton futur pro, entre guillemets?
Pour l'instant, beaucoup de vivacité d'esprit, dans le sens où bah, du coup, tu réfléchis à tout ce qui pourrait bien se passer, mal se passer, comment est-ce que tu pourrais contrer tout ça. Après, je dirais, bah, tu développes un peu toutes les compétences. Par exemple, j'ai découvert comment créer un site internet. Ça paraît débile, mais il faut que tu maîtrises. Moi, c'était en WordPress, pour le plus technique. Il fallait que tu maîtrises cet outil-là, par exemple. Il faut que tu maîtrises ce qu'on appelle le SEO. Sans rentrer trop dans le technique, c'est le référencement sur Internet. Parce okay. que si t'es pas visible sur Internet, bah, t'es rien. Y a... Nous, par exemple, on voulait se passer sur vêtements uniques, par exemple, dans mots-clés. Au début, on était tellement loin. Et du coup, on a appris à comment remonter par des articles, par le fait de créer un blog. C'est ce qu'on a créé en premier parce que ça prend le plus de temps. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça. Pareil, la compta. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, tu développes plein de compétences à pas mal d'échelles différentes. T'apprends à être polyvalent, en fait.
Quel impact t'espères avoir avec ce projet dans ce secteur en particulier? Est-ce que t'as une ambition
Alors déjà, l'ambition la plus réaliste, c'est de le mettre en ligne, que ça marche au moins un petit peu et que je vois même des créateurs qui commencent à parler de cette marque, que ce soit influenceur. Le fait d'avoir une petite existence, ce serait cool. Et à plus grande échelle, en fait, c'est que les gens commencent à s'habiller. Alors, je dis pas qu'il faut enlever les vêtements de marque et tout ça, mais au moins faire un petit trou pour ça et que les gens, en fait, s'individualisent un peu, en tout cas dans leur manière de s'habiller, vraiment se fassent kiffer. Pas forcément que ce soit extravagant. Encore une fois, quand on parle de mode, on peut voir des choses extravagantes, mais tout n'est pas fait pour être porté, par exemple, dans les défilés. Là, ce sera au bon goût de chacun. Moi, par exemple, je suis très sobre dans la vie de tous les jours en termes de vêtements. Mais par contre, avoir un vêtement avec une coupe un peu spéciale, qui a été créé pour une occasion, par exemple, avec des coutures, des finitions différentes. Ça, par contre, ouais, je dis oui. Tu as par exemple un blazer en cuir avec des coutures blanches. Pourquoi pas? Okay. Je te prends un exemple comme ça, mais il y a plein d'exemples. Et ce qui est cool dans la mode, c'est que tu as de la créativité tout en restant sobre, si tu le veux. Et tu as tellement d'associations que tu peux faire par des matières, des coupes, des couleurs. C'est génial. Mais voilà, un peu plus comme ça. Et bah aussi, ça permettrait d'avoir un impact un peu moindre aussi. Donc voilà, un peu les grosses ambitions, mais dans un premier temps, ouais, yes. Ça arriver jusqu'au bout, ce qui est le plus dur quand t'es entrepreneur et que tu pars de rien, en fait. T'as pas de salaire, t'as pas d'objectif, t'as pas de supérieur. Donc c'est
dur de se projeter un peu.
C'est dur de projeter, c'est dur aussi de... Il faut être strict avec toi-même. Genre, il faut que tu... Si tu te laisses aller, en fait, ouais... Bon, si j'ai pas réussi cette semaine à le faire, je le ferai la semaine prochaine. Et ton projet, il tarde un peu. Ça, c'était mon gros problème. J'essaie d'avancer. Maintenant, je me mets des deadlines pour ça. Mais voilà.
Ok. Pour le futur, est-ce que tu te vois vraiment continuer à fond là-dedans pour l'instant, ou t'as d'autres idées, d'autres projets?
En fait, ce qui est bien, c'est que surtout quand tu fais des études d'entrepreneuriat, t'as plein de projets, en fait, qui naissent. Parce que, bah, par exemple, en classe, je suis avec, on va dire, une vingtaine de personnes comme tout master, mais quasiment chacun a un projet. Et en parlant, t'as des mecs qui sont motivés, tu te dis « Ok, j'ai envie de faire ça avec toi. Putain, c'est pas mal ton projet, hein, pourquoi on se lancerait pas là-dedans ?» Et en fait, t'as envie de partir dans tellement de projets différents, mais en fait, il te faut le temps déjà que tu vas développer le tien. Donc ouais, dans l'idée, j'aurais des milliers de projets si celui-là ne marche pas, ou si il marche, mais que j'ai envie de faire autre chose. Ouais, j'ai pas mal d'idées, j'en ai foison, ça... Je me dis, ouais, c'est pas mal. Et le lendemain, je fais, ouais, non, ça marchera pas. Donc voilà, ouais, non, il y en a plein.
Est-ce que tu aurais un conseil, un mot à faire passer à un jeune ou un étudiant qui a une petite idée, peut-être, mais qui sait pas trop comment s'y prendre, par quoi commencer?
Déjà, la question à se poser, c'est est-ce que ton idée, elle te convient qu'à toi ou à pas mal de monde? Donc c'est d'en discuter. Et évidemment, quand on se dit entrepreneur, on garde son idée pour soi, on se dit, ok, mais tu l'imagines d'une certaine manière, donc. Personne ne va vraiment te piquer ton idée. Faut juste que tu sois. Faut pas trop en dire et un peu en parler pour avoir des avis. Donc récolte des avis pour voir si ça peut aller. Pareil, l'Ubilab, par exemple. On parlait de l'Ubilab, mais c'est génial parce qu'ils peuvent t'accepter même avec seulement une idée et ils t'aident à la construire. Donc c'est cool, par exemple. Donc de se faire accompagner, aider. Ubilab, c'est vraiment propre à l'université, mais sinon il y en a plein d'autres aussi. Donc ça dépend vraiment du contexte de chacun. Pour les ingénieurs, je sais qu'il y a l'INP, Impulse. Pour l'université de Bordeaux, il y a l'Ubilab. Pour chaque école, je pense à son incubateur. Donc vraiment de se faire accompagner. Si vous voulez le faire à plusieurs, ne le faites pas entre amis. Alors ça peut être génial, mais ça peut être très bloquant quand on parle d'argent. En fait, il faut quelqu'un avec qui on est efficace, tout simplement. Et avec qui, en fait, on sait séparer le pro du perso. Moi, ça va pour l'instant, mais j'ai vu pas mal de choses où ouais, ça peut être compliqué. On est tenté de faire un truc avec son meilleur pote, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc voilà mes conseils. Et pareil, être courageux, y croire jusqu'au bout, sans pour autant trop rêver. Donc voilà, il faut se laisser tenter. De toute façon, quand t'es jeune, c'est on va dire entre guillemets, t'as le moins de charges. Ça dépend de chacun, mais en général, c'est là où t'as le moins de risques. Pas d'appartement, pas d'enfant, en tout cas pour certains dans la majorité. Donc ouais, non, lancez-vous, ça peut être une super expérience et au pire ça peut que vous apprendre des choses et voilà, il y a l'Ubilab par exemple, même si c'est une idée, ils aiment bien, ils disent vas-y, on va t'aider à le construire et vous allez, ça se trouve, modifier 4 fois de projet, mais au moins à la fin vous aurez peut-être un projet qui tient à peu près la route et vous allez continuer votre route après, et il y en a des projets à foison qui chaque année marchent parce qu'ils ont tenté quoi, et si Omar réussissent, pourquoi pas toi quoi.
Il n'y a pas tant de barrières que ça en fait.
Non, il y a beaucoup de peur de l'inconnu. Moi, le premier, tout ce qui est droit, ça me fait un peu une peur monstre. Comptabilité, ça, vu que j'en ai fait, mais alors du droit, par exemple, créer ton entreprise et ton statut social, t'en as aucune idée. Donc ça, par exemple, ça me fait peur. Mais bon, en se renseignant, en étant accompagné, justement, t'as moins cette peur. Et voilà. Donc non, on a peur de l'inconnu, mais au final, on trace sa route. Faut essayer, quoi. Faut oser.
Pour finir, est-ce que tu peux rappeler un peu les comment on peut vous suivre ? Est-ce qu'il y a un... du coup le blog dont tu parlais ? Il y a un petit Insta aussi, il me semble.
Ouais, on a un Insta PierreLessFR où on a quand même un petit peu d'abonnés. On n'est pas les plus actifs, mais on va reprendre du service. Là, on est en train de tout organiser pour être à jour. On va essayer de prévoir aussi un petit projet, notamment un défilé. On a un projet avec notre ancienne promotion. Donc on va voir où ça mène, pareil. Donc ça peut être un premier événement, une première marche, un premier pied, et nous essayer de sortir l'e-commerce aussi. Donc ouais, sur Instagram. Sinon, on a aussi un blog pour l'instant, donc il y a quelques articles, mais le plus intéressant restera à venir. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour, Peerless, P-E-E-R-L-E-2-S.
Nickel. Merci à toi, William.
Merci à toi.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 47. On continue cette émission spéciale entrepreneuriat étudiant, spéciale pépite, avec un troisième portrait d'un troisième étudiant que j'ai accueilli maintenant dans le studio. C'est Thibaut. Salut Thibaut.
Salut, je suis ravi d'être ici.
Et bien ravi également. Voilà, on va faire un petit point sur voilà, ton expérience en tant qu'étudiant entrepreneur, vu que toi aussi tu as le statut national. Tu es suivi à l'Ubilab et du coup, tu es rattaché à Pépite. Aussi. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter aussi ton projet ?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah, en fait, je m'appelle Thibaut Delatespaza, je suis étudiant effectivement à l'Université de Bordeaux. J'ai 19 ans et je suis actuellement en études d'ingénierie, génie mécanique et productique à l'IUT de Bordeaux. Mon projet, il est très simple, en deux mots, on souhaite révolutionner l'innovation et le fait de porter des projets, de les mettre en valeur et en lumière, à travers une solution en ligne, Zencoy, qui permet à n'importe quel porteur de projet, entrepreneur ou innovateur, de venir nous présenter son projet pour 1 € symbolique et de le mettre en communication avec des investisseurs, des collaborateurs ou des personnes qui souhaitent racheter un projet, une idée ou une entreprise fondée. Donc voilà, l'objectif, c'est un peu ce côté social, c'est de mettre en communication à travers un réseau social des porteurs de projets avec des investisseurs pour faciliter l'entrepreneuriat en France, en tout cas le dynamiser.
Pour revenir à la base de ce projet, du coup, toi, tu es de Bordeaux, tu viens de te lancer dans ça.
Alors,
ça fait pas longtemps.
Alors ouais, c'est vrai que ce projet-là, en fait, il est fondé depuis environ 10 mois. On a une équipe d'ailleurs, on est 4 cofondateurs, un qui est plutôt du côté marketing et 2 autres du côté développement de la solution du site internet en ligne. Ce projet, du coup, ça fait 10 mois qu'on travaille dessus, mais c'est vrai qu'avant, j'ai eu une petite expérience dans l'entrepreneuriat, notamment à travers, pendant le Covid, j'ai lancé avec l'un de mes cofondateurs d'ailleurs, une boîte, en tout cas un site internet qui permettait d'acheter des posters de voitures. Il y a eu une petite fame autour de ça. C'est vrai que c'est mes premières expériences entrepreneuriales, entre guillemets, mais maintenant, un projet fondé avec cette ampleur-là, c'est vrai que c'est la première fois que, effectivement, que ça m'arrive et que j'ai l'opportunité de le développer, et on bosse beaucoup dessus en ce moment, donc voilà, c'est une super expérience.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans en même temps que les études ?
Bah écoute, c'est vrai que ça reste assez compliqué, entre guillemets, de gérer son temps entre les études qui sont hyper exigeantes, à l'UT, voilà, c'est un niveau... voilà, c'est dans l'ingénierie, etc. Il y a beaucoup d'examens, voilà. À côté, on essaie de travailler sur le projet. Je pense que ce qui m'a fait... qui m'a poussé vers ce monde de l'entrepreneuriat, c'est avant tout le fait de travailler sur des projets qui m'intéressaient, le fait de travailler avec une équipe et d'avoir ces aspects-là de communication et même ce genre de contenu-là, de pouvoir rencontrer du monde et échanger sur des thèmes, en apprendre plus. Je pense qu'en 10 mois, j'en ai jamais autant appris qu'avant. Tu vois, en 10 mois, j'ai appris énormément de choses, que ça soit en communication, que ça soit en marketing, alors que c'est pas du tout mon domaine de prédilection avec mes études. Mais voilà, c'est sûr que j'en ai appris énormément et c'est ça qui rend le truc hyper cool. Et voilà, l'entrepreneuriat, c'est avant tout, on va dire, dépasser ses limites et prendre une initiative du risque. C'est avant tout ça que je recherchais dans l'entrepreneuriat.
Tu parlais justement de la gestion du temps entre les études et le développement de ton projet. Comment tu fais concrètement? C'est quoi ton emploi du temps au quotidien? Comment tu gères tout ça?
Ok, pour faire un peu une mise en contexte, en fait, j'ai une semaine où c'est un peu 7 jours sur 7. C'est-à-dire, je dis 7-7 parce que tout simplement, je commence le lundi. Bon, j'ai ma semaine de cours classique. Hein, je fais du 7h-17h, on va dire, environ tous les jours. Après, l'objectif, c'est de travailler entre 3 ou 4 heures sur le projet, que ce soit avec des réunions avec mes cofondateurs, mes collaborateurs, etc., pour discuter un peu de l'avancée du projet, etc. Après, c'est aussi beaucoup de recherche. Donc ça, c'est souvent réservé sur des périodes entre 3 et 4 heures, simplement focalisé sur l'avancée du projet. Après, c'est sûr que il faut que je maintienne des notes correctes, puisqu'on essaie d'être étudiant et également entrepreneur. Donc, la partie étudiante reste fondamentale. Donc, j'essaie de consacrer 2 heures de mon temps aux études et puis le reste du temps, essayer de grappiller, de pouvoir placer dans mon emploi du temps des rendez-vous avec mes collaborateurs. Et c'est ça que je trouve primordial de fonder une équipe dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a tous nos domaines de prédilection, parce qu'on a tous notre emploi du temps et que c'est important de savoir jongler avec les deux. Ça reste compliqué, il y a une charge de travail qui est en plus. Mais puisque tu sais, puisqu'on bosse sur un projet qui nous passionne, c'est sûr que les heures que je passe à travailler sur mon projet, en fait, je ne les vois pas, tout simplement. Je fais des appels... je travaille pour améliorer les solutions ou les petits process qu'on essaie de mettre en place. Donc, en fait, je vois pas le temps qui passe. Donc, c'est plus un peu de l'amusement et du travail, toujours avec mon équipe, etc. Donc, ça se passe plutôt bien.
Et justement, le travail en équipe, comment tu l'as appréhendé? Comment ça se passe? Est-ce que on se doute que c'est pas toujours facile? Il faut s'adapter aussi aux autres et à comment ils travaillent. Comment ça se déroule là depuis 10 mois, du coup, comment vous arrivez à trouver un équilibre un peu entre chacun?
Je pense que ce qui est primordial et ce que j'essaye de mettre en place avec mon équipe, c'est surtout que chacun des cofondateurs, il peut proposer une idée, proposer une vision, et surtout j'ai voulu appuyer sur nos valeurs qu'on a autour de ce projet, que ça soit la communication, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose peut déranger ou qu'on a des questions ou des éléments à rajouter, en début de visio, donc j'introduis forcément la réunion, etc., j'introduis les thèmes de la réunion, et je demande à mes collaborateurs de présenter des questions, ou s'ils ont des questions, des remarques à faire pour commencer la réunion. Je pense que c'est primordial, c'est le premier élément clé, c'est de laisser la parole aux collaborateurs et de savoir un peu ce qu'ils en pensent, s'il y a du contenu qui les ont déplu ou que voilà, où tout va bien, je pense que c'est primordial de s'exprimer là-dessus. Après également, je pense que c'est de répartir des tâches entre chacun des collaborateurs selon leur domaine de prédilection et surtout selon leur domaine qui les intéresse. Par exemple, j'ai l'un de mes cofondateurs qui était intéressé par le montage d'un petit podcast. Moi, je lui ai dit avec plaisir, voilà, on a réalisé une petite session tournage de podcast, il a fini de le monter là tout à l'heure, on a pu s'appeler d'ailleurs, et donc je lui ai dit par exemple, typiquement je lui ai dit écoute, fais-moi tes petits retours et puis je te dirai ce que j'ai pu en retirer. Donc je pense que le mieux c'est un appel, je pense que c'est des appels assez naturels, comme cette discussion qu'on est en train d'avoir là entre collaborateurs, je pense que c'est primordial, une discussion qui reste professionnelle mais amicale aussi je pense.
C'est quoi les principaux défis un peu que tu as rencontrés et que vous avez rencontrés depuis le lancement de la création de ce projet? Est-ce qu'il y a des défis vraiment en particulier qui vous avez traversés?
Alors c'est marrant parce que quand je présente le projet Zencoy, je dis toujours que c'est marrant parce que Zencoy aurait eu besoin d'une plateforme comme Zencoy pour développer certains critères qui sont primordiaux quand tu lances un projet, la recherche de collaborateurs hein, qui a été primordiale pour un projet de la sorte. J'ai des compétences, mais c'est sûr qu'au niveau du développement d'une plateforme en ligne, j'avais besoin de collaborateurs. C'est cette recherche-là sur laquelle j'ai dû le plus travailler sur le début du projet. Mais après, évidemment, des questions financières. Forcément, on est étudiant. C'est difficile de lancer un projet quand on est étudiant. On a des dépenses, que ce soit l'essence, etc. Et c'est vrai que je reviens sur la semaine 7 jours sur 7, c'est que le week-end, je travaille au marché. En fait, je vends des poulets au marché. Donc, c'est sûr que c'est une bonne expérience. C'est une expérience de vente, de communication, etc. Mais surtout la recherche, je pense, les difficultés qu'on a pu rencontrer, ça a été la recherche de collaborateurs et puis la recherche de fonds pour développer la plateforme en ligne, etc. Ça a un coût et il faut s'en rendre compte.
Et du coup, pour prendre un peu de recul, est-ce que tu trouves, même si c'est encore très récent comme projet, que c'est une bonne idée d'entreprendre aussi jeune et même en tant qu'étudiant?
De ma vision des choses, je pense que c'est primordial de mettre lancé maintenant parce que on a du temps. En tant qu'étudiant, on n'est pas encore forcément implémenté dans une structure, entreprise, etc. Et je pense que malgré tout, on a du temps. Et qu'avec cette détermination, le midi, on peut s'arranger pour avoir une heure et demie pour travailler sur notre projet. Les week-ends également, on a des vacances scolaires. Cette semaine, typiquement, je suis en vacances scolaires. Ça me permet de faire des petites radios comme celle-là ou bien de travailler sur mon projet, de faire des visios, etc. Donc, je pense qu'on a du temps. Donc déjà, essayer de prendre du temps grâce aux études, c'est sûr qu'on peut en trouver. Et également, je pense que ce qui est primordial, c'est aussi de se rendre compte que il y a des réseaux, etc., qui sont mis en place avec les études. Typiquement, on peut réussir à faire des rencontres qui sont superbes. Et on peut développer notre projet grâce à ces rencontres-là. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on bénéficie de ce réseau-là d'étudiants avec ce partage de connaissances. Notamment, mes cofondateurs sont des étudiants. Il y en a un de l'Université de Bordeaux, à l'IUT Technique de Commercialisation, et deux étudiants de Toulouse. Notamment, ce rapport entre étudiants a été facilité pour développer le projet, quoi.
Et justement, tu parles de l'UbiLab. Tu es encore dans la phase de... d'introduction à tout ça, t'as pas commencé encore vraiment l'accompagnement, mais comment tu en es venu à t'orienter vers ce dispositif, Pépite, comment t'en es venu à obtenir du coup le statut national d'étudiant entrepreneur?
Ouais, alors pour la petite histoire, en fait, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire pendant 2 jours, en collaboration avec UbiLab et mon université de Bordeaux. Ils sont intervenus et en fait on avait un jeu autour de la création d'une entreprise, etc. Et j'ai trouvé l'idée hyper novatrice, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était bien de permettre à n'importe quel jeune, etc., d'avoir cet accès à un petit séminaire comme ça pour, pourquoi pas, éveiller l'esprit entrepreneuriat chez les jeunes français, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve que aux États-Unis, ils sont favorisés à travers l'entrepreneuriat, et en France, c'est vrai que c'est genre de clubs, d'associations, etc., ça dynamise ça. Donc voilà, j'ai eu une conférence, une masterclass, on va dire, sur 2 jours où, autour d'un jeu, on devait développer une entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai été sensibilisé à cet aspect-là. Mon projet était déjà en développement, mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir cet incubateur-là et ça m'a permis de rencontrer des personnes avec qui je peux discuter au fur et à mesure de mon évolution dans Ubilab. Je pense que le 5 novembre, on a une rencontre avec eux et je pense que ça va stimuler tout ça, donc c'est super.
Pour toi, c'est quoi les principales qualités, les compétences que tu as pu acquérir déjà ou en tout cas qu'il faut pour devenir un entrepreneur, en tout cas un bon entrepreneur?
Moi je suis encore jeune, hein. Je développe une solution, etc. C'est sûr que c'est beaucoup de travail et d'analyse sur les process que je mets en place et tout. Mais si je pourrais donner quelques conseils sur comment je gère tout cet aspect, tout le fait de monter un projet, je dirais la première qualité qu'il faut réussir à développer, c'est, je pense, avant tout, je vais me répéter, mais la communication. Quand tu montes un projet, que ça soit seul ou que ça soit en équipe, il faut travailler sa communication, il faut être avenant à rencontrer du monde, à discuter de plein de thèmes, et c'est là où on va réussir à développer une idée, à développer un sujet ou développer un projet qu'on est en cours de monter. Donc je pense que l'important, c'est vraiment de communiquer à fond, d'échanger avec des personnes qui viennent de partout et de pouvoir discuter de plein de thèmes. Après, bien sûr, c'est de la gestion aussi de son temps et de sa motivation. Je pense que l'important aussi, c'est de savoir gérer son temps. Moi, je suis étudiant et forcément, je suis très concerné par ça, savoir gérer le temps entre les études, la famille, le boulot à l'extérieur et puis le projet. Et je pense aussi la gestion également de ma motivation. C'est sûr que la motivation, elle n'est pas constante, mais après, ça vient aussi de la détermination, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler à fond dessus parce qu'on sait que ça peut avoir un impact sur la société, en fait. C'est vraiment les valeurs que porte le projet Zencoy, c'est des valeurs sociétales de permettre à n'importe qui de pouvoir porter son projet, porter son idée. Et en fait, à la clé, c'est quelque chose de super qui en découle, donc c'est ça qui me garde en joue, quoi.
Pour le futur, comment tu vois un peu l'évolution de ce projet, ou même toi plus personnellement, c'est quoi un peu tes aspirations pour après? Est-ce que t'as d'autres idées peut-être même vers où tu vas?
Moi c'est beaucoup de découvertes. Ce qui me guide, c'est vraiment la découverte, monter des projets qui me correspondent. C'est vrai que c'est des valeurs que j'essaye de porter, les valeurs à travers Zencoy, c'est des valeurs que j'essaye de porter au quotidien. On va dire que on essaye de développer d'abord cette plateforme en ligne, etc. L'objectif, c'est de permettre aux personnes de déposer leur projet, de le rendre accessible à tous, en fait, c'est avant tout ça. Et après, pourquoi pas d'organiser des conférences, des masterclass où on pourrait faire participer des personnes qui ont monté leur projet et qui pourraient le présenter à certaines personnes de la plateforme, organiser des masterclass, des conférences autour de tout ça. Et pourquoi pas, au fur et à mesure, de pouvoir nous-mêmes, en tant que plateforme, pouvoir réinvestir dans des projets, des idées qu'utilisateurs pourraient avoir sur notre plateforme. Donc vraiment, c'est cet aspect social qu'on essaie de développer, quoi.
Quel impact t'espères avoir, toi, en particulier, sur justement ce secteur d'activité-là? Est-ce que t'as des objectifs précis dans ce domaine-là?
En tout cas, des impacts personnels, c'est ça, des objectifs personnels que j'essaye d'atteindre avec ce projet. Ouais. Tout d'abord, je pense que c'est assez gratifiant de se dire qu'on travaille sur un projet qui est concret, qui va au fur et à mesure devenir concret, et c'est merveilleux parce que on se rend compte qu'on communique vachement avec les gens et que on a l'objectif, on a des opportunités comme aujourd'hui de pouvoir discuter avec des personnes, de pouvoir échanger sur des thématiques d'entrepreneuriat et tout, etc. Donc des thématiques qui nous intéressent, donc c'est top. Et moi plus personnellement, c'est vraiment développer ma communication, développer mes compétences de management, de marketing, parce que c'est sûr que c'est primordial. Moi, je fais des études en génie mécanique et productique, c'est pas du tout mon secteur d'études, et pourtant je développe des compétences là-dedans. Donc plus personnellement, ça serait développer de la communication, de l'éloquence, de pouvoir rencontrer des personnes. Absolument, c'est vraiment mon objectif premier, c'est de rencontrer des personnes, partager des expériences, notamment ce que tu fais. C'est pour ça aujourd'hui que je suis là, et c'est vraiment super.
Et est-ce qu'il y a des fois un petit sentiment d'illégitimité qui peut ressortir?
Bien sûr, ça fait partie du jeu, et nous, notamment à travers notre contenu, que ça soit sur Instagram, LinkedIn, on essaie de tous les jeudis accueillir quelqu'un une personne qui a monté un projet ou qui a une idée innovante. Maintenant, plus personnellement sur ce projet-là, c'est sûr que cette légitimité, elle est toujours remise en question parce qu'on est étudiant, parce que c'est l'un des premiers projets qu'on monte et qu'on n'a pas forcément envie de tomber dans les clichés de l'entrepreneur, etc. On essaye de faire très gaffe à ce qu'on peut dire, les messages qu'on peut véhiculer. On essaie juste d'apporter une vision nouvelle autour de l'entrepreneuriat, de discuter sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on essaie de travailler, mais tout en restant sur voilà, des discussions assez amicales, des discussions assez légères, pour pas essayer de tomber voilà, sur des domaines qu'on connaît pas forcément et sur lesquels on pourrait s'avancer en disant voilà, des choses qui sont pas forcément très fondées, quoi.
C'est quoi pour toi l'esprit d'entreprendre ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que l'esprit d'entreprendre, en tout cas l'esprit entrepreneurial, je pense que c'est surtout de la remise en question permanente. Je pense que c'est avant tout ça, c'est se dire ok, comment je pourrais améliorer ma vision des choses, comment je pourrais m'ouvrir l'esprit, parce que je pense que l'entrepreneuriat avant tout c'est de l'ouverture d'esprit, s'ouvrir à des nouvelles opportunités, pouvoir les attraper, les saisir, pouvoir les analyser également. Je pense que c'est surtout ça, et je pense qu'avant tout l'esprit entrepreneuriat, je pense que c'est de la communication, de la volonté de rencontrer et surtout du travail, parce que monter une entreprise à notre âge, moi j'ai 19 ans et monter une entreprise à 19 ans c'est du travail voilà, mais c'est sûr que ce travail là il est motivé par une soif de rencontrer du monde et d'évoluer sur un secteur qui m'intéresse. Zencoy, c'est avant tout des valeurs que je partage au quotidien et que sur lesquelles j'essaye de travailler. Donc tout ce côté social, les rencontres, etc. Donc c'est ça qui motive en fait à garder cet esprit entrepreneurial et à travailler dessus pour essayer de développer toutes ces compétences qui sont importantes pour un bon entrepreneur.
Pour venir, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner justement à un étudiant comme toi ou même un jeune tout simplement qui aurait une idée et qui aimerait se lancer là-dedans ?
Typiquement, c'est marrant. Je pense à un ami, on est dans le même IUT, et il rêve de monter une entreprise. On en a rarement discuté parce qu'il reste très discret là-dessus, mais je sais qu'il souhaite entreprendre. Et c'est sûr que j'aimerais lui communiquer ce message. Si j'en aurais un à dire, même à nos éditeurs, ça serait fonce. Je veux dire fonce. Essaye d'améliorer peut-être certaines compétences, que ça soit avant tout... la communication, essayer de travailler sur les petits freins qui peuvent te bloquer, parce que tout est question de mental, entre guillemets, parce que c'est des peurs, des stress de se mettre de se mettre en visibilité, entre guillemets, de se faire voir. Mais je pense que lance-toi, vas-y à fond, au pire des cas ça marche pas, et puis tu recommences, et puis tu retravailles, et puis de toute façon les premiers projets, souvent, c'est source d'apprentissage, c'est source d'expérience, c'est source de travail sur des compétences que tu peux assimiler. Et je pense que la meilleure solution et le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est lance-toi. Essaye de communiquer avec les gens, essaye d'avoir des conseils, que ça soit de personnes qui ont monté des projets ou bien des personnes qui sont plus à l'aise que toi sur certains domaines. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien et pour l'instant, ça fonctionne bien. Entre guillemets, on a réussi à monter une belle équipe, on a des belles valeurs autour du projet, une bonne communication. Donc je pense que c'est ça, c'est lance-toi, communique à fond et puis tu verras.
Super, on va finir sur ce message. Est-ce que tu peux rappeler juste comment vous suivre sur les réseaux, peut-être si vous avez un site internet aussi, je sais pas.
Yes, carrément. La plateforme elle s'appelle Zencoy. Zencoy, c'est un réseau social donc sur internet, c'est un site internet. Également, on peut nous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, où on partage chaque semaine, chaque jeudi de la semaine, un projet ou une idée innovante que quelqu'un, un porteur de projet, a pu avoir. Donc c'est top, on a une communauté, etc., un échange autour de ça. Donc voilà, sur Instagram, zencoy.company, et sur LinkedIn, pareil, zencoy.company. Et après, sur Internet, Zencoy. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Thibaut, d'être passé pour parler de tout ça.
Yes, merci.
Et puis,
à toi,
bonne continuation.
Ouais, merci à toi. Merci beaucoup.
Univox. Univox.
Yeah. Dis-moi ce que tu penses de moi. Mais dis-moi. Je le prendrai pour changer le mal. Le manque d'effort qui m'a bloqué dans ma tête. Je crois que c'est de la forme que j'ai du mal à mettre. Je sais pas si je la reverrai dans 2 ans. Que je puisse enfin revoir ses traits. En ce moment je fume tout loin. J'ai peur de rester bloqué là-dedans. M'aider à sortir de ma planque. Maintenant je sais plus ce que je fais en rond. Est-ce que c'était pour chemin? Hey, avec le job je voudrais pas que tu disais. Pour enlever ma peine, oublier qui c'est. En plus tu dis, je me mets à teaser.
J'ai croisé ton regard au détour d'une soirée. Je t'ai pas fait d'un revoir. Je reviens en galère. On se reverra tout à l'heure. Toi t'as des trucs à faire. Moi j'ai des trucs à faire. On s'en ira après. Je t'envoie un audio tout bêtement. Ce n'est pas que je repense à tes sous-vêtements. Je sais pas si le présent me fait vivre. Si le passé me hante, j'ai mes doutes et je rentre. Wow.
midi, midi, je me sens si seul. Je pense à toi. Je te dis que c'est l'or, le misolé. Après la voix,
laisse re. Si tu m'aimes, no cap. Si je perds le combat, c'est la dernière fois que je touche du doigt. Amour, je connais pas. Y'a des grands débats à la vendetta. Ça traîne, ça s'égare, ça perd le mental. Je gagne du temps, je gagne du terrain.
J'ai perdu le vent qui me portait au loin. Personne ne m'aide à courir, personne ne m'aide à m'ouvrir. Je suis rien sans toi.
Ton regard dans le laptop, maintenant qu'elle est plus là, le moral est au plus mal.
Maintenant, tous les jours, je fume ma clope. Seul, mais dans ma tête, on est deux.
J'ai mes couilles mais je tente. Je fais un truc de ma vie et mes cernes te le montrent. J'écris ce couplet, je tente entre le bien et le mal. Je le dis ouvertement, ouvertement. Si tu savais tout ce que je voulais faire, mais le passé est ferme, laisse passer et pleure. Laisse se faner les cœurs.
Midi, minuit, je me sens si seul. Je pense à toi. Je te dis que c'est l'art de m'isoler. Prenne la voix.
Laisse re.
Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 47. On poursuit cette émission spéciale Pépite, statut étudiant entrepreneur. On arrive bientôt à la fin. Et je me suis à présent en présence de Karine Berthoumieux, qui est responsable territoriale de BGE Lot-et-Garonne. Alors BGE, c'est un réseau national associatif qui porte plusieurs missions. Donc on a bien sûr l'accompagnement à la création d'entreprises, mais aussi l'évolution professionnelle, c'est aussi un centre de formation et également un appui aux associations de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Karine.
Bonjour.
Déjà, est-ce que tu peux présenter un peu ton rôle et ton travail au sein de BGE 47?
Alors du coup, moi, comme tu l'as dit, je suis responsable territoriale, c'est-à-dire que je pilote l'antenne du Lot-et-Garonne au sein de BGE Sud-Ouest. Le but est d'aider les consultants qui accompagnent les porteurs de projets, donc dans les questions techniques, dans le pilotage de l'antenne, etc. Les consultants au quotidien reçoivent des porteurs de projets, c'est-à-dire que toute personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise peut être accompagnée par nous. L'accompagnement est sous forme de rendez-vous individuels, donc des rendez-vous individuels à peu près tous les 15 jours, pendant une heure et demie. Et entre deux rendez-vous, on va donner au porteur de projet du travail à faire pour avancer sur son projet. Le but est d'avancer sur l'étude du projet pour se rendre compte si ce projet est a priori viable et réalisable.
Du coup, vous avez aussi votre manière d'accompagner des jeunes, notamment. Pour donner un exemple, nous, avec l'association Mouvement Jeunesse Montclesson, depuis 3 ans, on porte un projet de coopérative jeunesse de service, donc le CUBE. Et BGE a accompagné cette année donc l'équipe de jeunes, dont certains étaient étudiants, dans la gestion globale de la buvette donc du parc Passeligne à Agen. En quoi il a consisté cet accompagnement?
Alors BGE a été sollicité pour accompagner effectivement les jeunes qui tenaient la buvette cet été. On a mis à disposition un outil que nous portons depuis plusieurs années, qui est l'Incubatest BGE, donc un service de test d'activité. En l'occurrence, les jeunes ont pu profiter de ce service pour tester l'activité et être hébergés juridiquement et être assurés dans le cadre de leur activité professionnelle. Le rôle de BGE était également un rôle de parrain économique. Le but était de transmettre aux jeunes du CUBE les bases de la gestion d'entreprise et de l'analyse de rentabilité, etc. Il y avait 7 jeunes, 3 mineurs, 3 majeurs, et 4 majeurs. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. C'était une première expérience pour eux et pour nous aussi en tant qu'accompagnateurs. Et voilà, donc il y a quelques petits réglages à faire mais pour l'année prochaine. Mais voilà, c'était très très enrichissant de tous les côtés.
Et sur du coup les quelques-uns qui étaient majeurs et même étudiants, est-ce que tu as pu remarquer certaines peut-être compétences en plus, hein, en tout cas plus d'aptitudes à pouvoir s'adapter à ce cadre et à vouloir voilà, entreprendre aussi?
Oui, je pense que sur les jeunes majeurs, il y en avait au moins un ou deux voilà, qui aimeraient peut-être aller plus loin. Alors peut-être pas peut-être pas de suite, et puis ils ont leur étude à terminer, mais oui, je pense qu'on les reverra un peu plus tard. Comme tu le disais, on n'accompagne pas de jeunes vraiment sous le statut étudiant-entrepreneur, parce que c'est un statut bien à part qui est porté par d'autres organismes. Mais toute personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise et qui a une idée précise de ce projet et qui est prêt à l'étudier peut toutefois être accompagnée par BGE et venir chez nous pour mettre en place cet accompagnement.
Petit appel à tous les jeunes, qu'ils soient étudiants ou non, qui auraient envie de se lancer dans la création ou la reprise d'entreprise, n'hésitez pas à vous diriger vers BGE. Est-ce que tu peux rappeler peut-être les contacts, peut-être comment vous suivre, comment vous retrouver?
Alors, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site www.créer.fr, créer comme le verbe. Et ensuite, pour nous contacter en Lot-et-Garonne, bge47@créer.fr. Alors, vous envoyez un mail et puis on répond à toutes les sollicitations.
Merci beaucoup, Karine, d'être passée au micro.
Avec plaisir.
Univox. Univox.
De retour sur Radio Campus 47, nous sommes à présent en fin d'émission et j'ai avec moi dans le studio Aurélie Douminck, qui est coprésidente du Centre des Jeunes Dirigeants 47, le CJD, on va l'appeler.
C'est ça.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que c'est le CJD dans un premier temps?
Oui, bien sûr. Le CJD, c'est comme le nom l'indique, Centre des Jeunes Dirigeants. C'est pour moi et pour la plupart des JD. L'idée jeunes dirigeants qui font partie du club. On est un club de... C'est l'école du dirigeant. Tu vois, il n'y a pas d'école en France qui t'apprend à être un bon dirigeant. Là, clairement, tu as au sein du CJD des formations qui te permettent de toi t'améliorer en tant que dirigeant, te donner les clés, aussi bien des clés pour le côté financier, gérer la boîte, ou le côté humain, manager, mieux manager, ressources humaines. Après, tu as aussi du développement personnel, donc okay. Beaucoup de formations sur toi, en fait. Apprendre à te connaître pour mieux travailler derrière. Ça a été créé en France. La plupart des clubs sont en métropole. Mais on en a aussi dans l'outre-mer, on en a également Madagascar, t'en as en Europe, t'en as un petit peu en Amérique. Donc c'est international, même si on est plus de 6000 en France à faire partie du CJD.
Ok, et du coup dans le Lot-et-Garonne en particulier, ça fait combien de temps que ça existe?
Alors combien de temps, je peux pas te répondre,
okay.
Ça me dépasse, mais on est 40, une quarantaine de chefs d'entreprise qui représentent à peu près tous les secteurs de travail. C'est pas un groupe de chefs d'entreprise d'un même secteur, tu vois, c'est vraiment, on a de tout.
Okay.
Tu as du domaine agricole, du commerce, de la restauration, des bureaux, de l'industrie, il y a vraiment de tout.
C'est très très varié.
Ouais. C'est la richesse, c'est notre richesse, c'est d'être vraiment tous différents.
Comment ça fonctionne? Tu parlais de formation, comment on intègre ce centre?
Alors, le CJD, tu peux l'intégrer si tu es soit chef d'entreprise, soit dirigeant d'une entreprise. Tu fais un appel à dossier, en fait. Tu remplis une demande de candidature en ligne. L'équipe qui recrute, qui s'occupe du recrutement, bah, te recontacte, te demande, va te donner un formulaire, en gros. Et après, tu as des JD de la section, donc on est tous bénévoles qui vont venir visiter ton entreprise et discuter avec toi pour voir si tu te plantes pas, si tu as vraiment besoin d'être là. On n'est pas un club d'affaires, donc on n'a pas le besoin de recruter des nouveaux en permanence. On est, au contraire, on est sur un travail de longue date.
Toi, plus précisément, tu es coprésidente. Ouais. En quoi ça consiste ton travail ?
Moi, mon travail là au CJD, c'est de faire parler du CJD, que les gens connaissent, parce que c'est une vraie richesse en fait d'être au CJD. Moi, quand je suis rentrée au CJD il y a 5 ans, mon entreprise, je l'aimais bien, tu vois, elle était cool, mais je l'avais vraiment pas développée, j'avais pas vu tout l'aspect que je pouvais amener à mon entreprise. Là, ça m'a fait vraiment grandir en tant que chef d'entreprise, ça m'a fait aussi grandir humainement. Donc aujourd'hui, j'ai pris avec Elodie, on a pris toutes les deux la coprésidence du club pour essayer de redonner, de continuer ce qu'on nous a donné jusqu'à présent, tu vois, de partager, de trouver des sujets d'actualité, parce que en fait, le fonctionnement, c'est on a une réunion mensuelle où on est tous les JD de la section et on va aborder des thèmes de travail. Donc que ça soit du, comme on disait tout à l'heure, soit du travail personnel sur soi, soit de la formation à la gestion, au recrutement et autres. Donc ça, c'est une réunion mensuelle sur un thème qu'on aborde en début d'année. On a le calendrier en fait de tous les thèmes. Et après, on a chaque JD travaille dans une commission de travail où on est entre 6 et 8 par commission. Donc on a 2 rendez-vous par mois, en gros, en local. Et après, on a des rendez-vous régionaux et nationaux. Donc ça, c'est une fois par an. Et c'est des intervenants de haut vol, des conférenciers qui sont vraiment inspirants et qui nous apportent des solutions. Donc c'est hyper intéressant.
Du coup, ça s'appelle Centre des jeunes dirigeants. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour en faire partie ?
Alors ça, là, tu vois, là-dessus, tout le monde nous fait la remarque. Jeune dirigeant, c'est plus jeune dans l'attitude. Tu peux avoir 90 ans et si tu montes ta boîte demain, faire partie du CJD comme 16 ans et venir au CJD, il n'y a pas de souci. L'intérêt, c'est tu viens parce que tu as envie d'apprendre, de te former et du coup, tu es dans une démarche d'expérimentation. Tu viens au CJD si tu n'es pas figé sur des idées, tu vois. Tu te dis, je suis là pour essayer, donc j'ai une réunion, il y a un conférencier qui m'inspire sur un sujet en particulier de management. Je n'ai jamais managé comme ça, mais pourquoi pas, je teste et on verra si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on réessayera une autre façon de faire.
Est-ce que tu aurais un message à donner à des jeunes ou à des étudiants qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Qui n'aient pas peur. Après, il faut bien préparer ton entretien avec le banquier. Hein. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir te lancer ou pas, en gros. En général, c'est plutôt ça. C'est pitcher ta boîte. Apprends à pitcher ta boîte. Il y a plein de tutos en ligne. Une fois que tu as pitché ton idée, c'est plus facile d'aller en parler avec le banquier. Et ou le comptable, et de te lancer. Et n'hésite pas à aller dans des assos comme le CJD, ou il y en a plein d'autres, des assos qui peuvent t'aider à te lancer et à te trouver peut-être un parrain ou une marraine. Chef d'entreprise, ça peut aider. Très régulièrement, j'interviens dans l'association 100 000 Entreprendre. Ça permet aux jeunes de comprendre ce que c'est que se lancer. Il faut avoir quand même à l'idée quand tu te lances que tu ne vas pas faire 35 heures de travail par semaine, tu vas être plus proche des 80-90 heures, surtout au début, hein, quand tu lances ton activité. Si tu démarres de zéro, il y a fort à faire. Au tout début, tu as toutes les casquettes, hein, commercial, comptable, secrétaire, etc. Donc c'est lourd, mais c'est faisable, on l'a fait nous, donc il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas.
C'est sûr. Et justement, toi, tu en as un exemple de ton expérience. Quelle qualité il faut pour être un bon dirigeant, bon chef d'entreprise ?
Il faut pas avoir peur de l'échec. Tu vois, tu peux très bien rater un truc et tu peux rater ta première entreprise et réussir les 3 suivantes. Tu vois, c'est pas. On a tous appris à marcher, on s'est tous cassé la figure 2000 fois et on s'est tous relevé et on a tous fini par marcher. Donc il faut te dire la même chose pour ton entreprise. C'est des échecs, il y en aura, mais c'est hyper formateur. Donc la plus grande des qualités d'un chef d'entreprise, je pense que c'est la résilience. Tu rates, tu recommences. Tu rates, tu recommences et ça devient ça devient facile après.
Persévérer malgré l'adversité que
c'est
tu vas rencontrer.
C'est ça. Parce que ça sera pas toujours rose. Franchement, faut pas se mentir. C'est pas tous les jours, waouh, génial, j'ai 100 000 balles sur le compte en banque, je vais pouvoir acheter ça, 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 ou développer ça, ça, ça. Non, c'est pas ça. Quand tu commences à avoir des employés, qu'il faut sortir un salaire tous les mois pour tout le monde, t'as quand même des gros moments de solitude. Donc les moments de solitude, il faut aller les chercher, il faut aller chercher des copains qui sont comme toi. Donc tu vas dans les entreprises, dans les assos de chefs d'entreprise, et tu vas pouvoir discuter avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi. C'est pas être patron pour rester avec les patrons, c'est pas ça dans l'idée. C'est ils nous comprennent parce qu'ils vivent la même chose que nous. Donc quand tu montes ta boîte, ouais, essaie de t'entourer de chefs d'entreprise.
Comment on peut vous retrouver, vous suivre le CJD?
Alors nous, on a une page LinkedIn et on est sur Facebook aussi, okay. CJD Lot-et-Garonne. Après, si c'est pour le CJD, si c'est pour le national, t'as tous les réseaux sociaux pour le national, ils sont tu tapes CJD, c'est facilement suivable. On n'a pas de site internet, nous, on est vraiment que sur les réseaux.
Ok. Et vous avez des locaux sur Agen ou
on n'a pas de locaux
dans le coin? Non,
non, on bouge d'un à l'autre. On va même pas chez les entreprises des membres. C'est vraiment à chaque fois on prend soit un partenaire qui nous prête une salle de réunion, soit on bouge dans des lieux. On aime bien découvrir en fait les autres lieux.
Merci beaucoup.
Merci
Aurélie.
Univox.
Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Univox spécial entrepreneuriat étudiant. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Nabel Jouison tout d'abord, mais aussi Leïla Devin, William Comte et Thibaut Delatte pour leur témoignage sur leur parcours d'étudiant entrepreneur. Et pour finir, merci aussi à Karine Berthoumieux et Aurélie Douminc, qui représentent deux structures plus locales qui accompagnent aussi des jeunes entrepreneurs. Cette émission est à retrouver sur notre site internet radiocampus47.fr ainsi que toutes les plateformes de podcast dans la rubrique « La vie du campus ». Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok, Radio Campus 47. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.